La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Entre le lièvre mort, qui est la peinture la plus ancienne de la collection, et la composition numéro 4 de 1914, absolument abstraite, que découvrit Salomon Slipher, qui deviendra ami et grand collectionneur de Mondrian, un chemin considérable a été parcouru par cet immense artiste. Une trajectoire obstinée, réfléchie, radicale, une recherche incessante et exigeante de perfection et d'absolu. Une idée certainement qui le conduit, celle du rôle transformateur de l'artiste, qui s'approfondit pendant plus de 60 ans de carrière, en dépit des obstacles, des guerres et de la transformation du monde. Un travail qui commence aux Pays-Bas, dans un milieu rural traditionnaliste et dévot, et où on s'éclaire à la bougie, et qui s'achève à New York, dans les rythmes endiablés du boogie-woogie qui va tant enthousiasmer Mondrian. C'est la première partie de cet itinéraire que nous montre le musée Marmottan, en présentant la collection de ce personnage pittoresque, Salomon Slipher, qui a rassemblé 180 peintures de son ami, lui permettant sans doute, au début de sa carrière, de surmonter toutes les difficultés de la vie matérielle.
J'ai eu un certain mal à m'habituer au premier tableau de Mondrian, qui m'est tombé sous les yeux. Car c'était le premier tableau abstrait que je voyais, ou même dont j'entendais parler. Au bout de 6 semaines, toutefois, j'ai dû admettre que le tableau avait agi sur moi, car j'éprouvais de moins en moins de plaisir à contempler les tableaux normaux que j'avais toujours appréciés jusqu'alors. Mais il m'a fallu des années pour comprendre que l'attrait de ce tableau tenait à la volonté inflexible déployée par Mondrian pour atteindre le fondement même de l'existence.
Pour parler de cet artiste extraordinaire, pour parler de cette collection si particulière, celle de Salomon Slipher, qui est l'ami de Mondrian, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Mathieu, qui est directrice scientifique du musée Marmottan. Bonjour Marianne, vous allez bien ?
Bonjour Jean.
Vous êtes accompagnée par Anne Gratadour. Bonjour Anne, vous êtes artiste, scénographe, vous avez travaillé avec les œuvres de Mondrian. Quel privilège, non ?
Oui. Énorme privilège et grande richesse intérieure.
Vous pensez qu'il regarderait votre scénographie avec sévérité ou avec joie ?
Avec joie.
Parce qu'il est sévère, hein, quand même, son idée de l'art, surtout d'une création qui s'étend à l'espace, est très précise et très sévère.
Oui, mais...
Ça ne vous fait pas peur ?
Non. Donc, non. Non, parce que je crois que nous avons respecté l'artiste.
Et vous êtes artiste vous-même, donc vous l'avez forcément respecté. Marianne Mathieu, vous avez fait de très nombreuses expositions. On vous connaît comme commissaire d'exposition internationale. Je pense Berthe Morisot en 2012, ça c'est une exposition très ancienne. Mais on pourrait penser aussi à ce que vous préparez, ces années d'Italie.
Oui, ces années d'Italie qui aura lieu à Marmottan, justement, après l'exposition Mondrian figuratif que nous présentons. Donc.
Qui elle-même vient après une exposition, c'était il y a un an et demi, non ? C'était Monet Collectionneur ?
Exactement.
Une très belle exposition aussi.
Merci.
Dites-moi, ce personnage dont vous avez réuni la collection, il y a uniquement sa collection ou il y a quelques éléments en plus, d'ailleurs ?
Non, il y a uniquement sa collection. L'idée, vraiment, c'est de faire vivre et battre le cœur du musée Marmottan, qui est une maison. C'est la maison des collectionneurs. Alors c'est la maison d'un collectionneur, et ensuite une trentaine d'autres vont léguer finalement ce qui a constitué leur richesse et leur vie intérieure. Et donc la vocation de nous qui l'animons et d'organiser des expositions, c'est de montrer finalement la richesse et le rôle des collectionneurs dans la vie des arts. Alors quand nous avons découvert que Mondrian avait finalement un collectionneur caché qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas particulièrement mis à l'honneur. On s'est dit, mais c'est cette histoire inconnue que nous devons raconter. Et c'est donc l'occasion unique, je veux dire rêvée pour nous d'accueillir ces peintures.
Alors c'est un très beau cadeau que fait au fond le Kunstmuseum de La Haye, puisque c'est cette collection, après la mort de ce collectionneur, a été déposée là-bas. Donc c'est une tradition qui ressemble à celle dont vous avez pu profiter, dont vous nous faites profiter également. Mais racontez-nous un petit peu, j'ai l'impression que ce Salomon Slipher qui s'est intéressé donc vers 1914, je crois que c'est à peu près là que ça a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé? Et ma deuxième question serait, au fond, il semblerait, est-ce votre avis, qu'il s'est malgré tout essentiellement passionné pour la partie figurative de l'œuvre?
Vous avez raison. Alors comment ça commence? J'allais dire, ça commence comme toutes les histoires d'amour, par un hasard et par une rencontre. Nous sommes en 1914, Mondrian a dû quitter Paris. Il n'a pas pu le rejoindre puisque la guerre a été déclarée. Il n'a pas d'argent. Et donc il va vivre chez des amis et dans le petit village de la Reine, Katinka Anhart eh bien l'accueille. Alors il l'accueille, elle est comédienne, il s'apprécie beaucoup. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dépose des tableaux qui vont très rapidement orner la maison d'hôte. Alors évidemment, à cette époque-là, en 14, Mondrian, il est ce qu'on considère nous véritablement comme un peintre abstrait, hein, sa peinture est abstraite, et donc ce sont ces peintures abstraites qui sont présentées dans le salon. Et au beau jour, eh bien, Katinka, pour joindre les deux bouts, elle reçoit des hôtes payants. Et l'un d'eux arrive, et c'est Salomon Slipher. Et Salomon Slipher ne va pas rencontrer Mondrian, mais il va rencontrer sa peinture. Alors il va rester face à cette composition qu'il ne comprend pas, fondamentalement qu'il n'aime pas, mais qui va l'intriguer et qui va l'amener à l'acquérir. Et ce tableau est le premier tableau qu'il va acquérir. Il va ensuite, autour de cette table d'hôte, rencontrer Mondrian. Et là, les deux hommes, j'allais dire, vont être le contraire de ce que vous avez dit, Jean, tout à l'heure. C'est pas l'austérité. C'est le compagnonnage, le goût des femmes, le goût de la danse, le goût du mouvement. Absolument. Et c'est une amitié profonde qui va se nouer entre eux. Et là, Slipher va acheter Mondrian, et le Mondrian qu'il préfère, le Mondrian qu'il anime, c'est le Mondrian figuratif.
Alors, cette œuvre de 1914, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous la décrire pour qu'on voit en quoi cette période, finalement, où la naissance de l'art abstrait, il faut se rendre compte que quand elle est peinte, Mondrian revient de Paris, il a découvert le cubisme, il s'est passionné évidemment par les entreprises de Braque et Picasso, il y a vu une avant-garde qu'il va chercher à retrouver un petit peu plus tard, et ce n'est pas encore le Mondrian avec des surfaces planes rouges, jaunes et bleues, mais c'est déjà le Mondrian orthogonal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que vous pouvez nous le décrire déjà?
Alors ce tableau, il est beau, il est vibrant, c'est de la matière. Et donc c'est une symphonie de dégradés de blanc, de rose, qui sont animés effectivement par comme des petites croix noires qui viennent et qui animent cette surface. Et sans doute, c'est une décomposition que Mondrian a pu faire à partir du regard qu'il a posé sur les façades des immeubles parisiens. En tout cas, ça fait partie de la tradition qui accompagne une partie de ses œuvres, qui sont donc des œuvres qui ont été faites à Paris et qui marquent un jalon important, parce que Mondrian s'inspire toujours de la réalité, de ce qu'il voit, mais il la décompose à tel point qu'effectivement, on ne n'identifie plus au premier regard ce qu'elle représente, un motif issu de la nature. Et donc, on les dit abstraites, mais en fait, elles sont encore très concrètes. Donc, on est à ce jalon de l'œuvre de Mondrian.
Alors, le collectionneur a eu affaire à une œuvre qui lui résistait, il n'a pas pu rentrer dedans, et donc cette œuvre-là, obsédé. Alors, je rajouterais deux choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que l'œuvre est centrée, les traits noirs ne vont pas jusqu'au bout, et il y a quelque chose qui va durer. Vous avez peut-être ressenti ça en faisant l'exposition, c'est qu'on a l'impression que l'œuvre pourrait s'expanser sur le mur, bien au-delà de la limite de la toile. Alors, ça veut dire que vous êtes peut-être encombré par les œuvres de Mondrian qui envahissent les murs que vous avez construits pour lui.
Oui, c'est une remarque très juste que cette première œuvre qui donc est la première étape du parcours de l'exposition, qui présente une sorte d'ovale, de construction imaginaire ovale, elle peut devenir plus grande. Et c'est surtout l'annonce de la touche, des touches de couleurs qui se mélangent encore, mais qui annoncent l'orthogonalité, où il va à la fois séparer et rejoindre les aplats de couleurs avec un système filaire qui annonce la grille, où il cherchera toute sa vie durant l'équilibre et l'harmonie. Donc voilà, c'est une ouverture vers une quête à la rencontre de cet artiste.
Alors cette quête, on va se rendre compte qu'elle va extrêmement loin. On en parlera peut-être pas d'emblée, puisque il va falloir qu'on parle un petit peu de ce début figuratif qui est si passionnant et si paradoxal d'ailleurs. Cette quête va le conduire à transformer son atelier, à imaginer ce que peut être l'évolution de la musique, ce que peut être l'évolution de l'architecture, ce que peut être l'évolution de la langue même. Et là, dans cette exposition, on commence comment ? Quelle est la première œuvre que vous avez montrée dans l'exposition ?
On a commencé par un contraste, un paradoxe, donc première œuvre de l'exposition, au pluriel, elles sont deux, cette fameuse composition 4, totalement abstraite, le choc qui fait rencontrer Mondrian et Slipher face au lièvre pendu, une œuvre la plus ancienne de la collection Slipher, Mondrian a 19 ans quand il l'a peint. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les œuvres qui suivent appartiennent à la collection Slipher, mais toutes les œuvres qui suivent ont été choisies par Mondrian. Et donc Mondrian, qui dit lui-même « Je ne laisse jamais sortir rien qui ne soit bon », considère que toutes ses œuvres ont un rôle et une importance dans son parcours. Et donc c'est un peu Mondrian par lui-même aussi qu'on découvre à travers cette sélection.
Vous voulez dire, Marianne Mathieu, que Mondrian avait conscience avec ce collectionneur, cet ami avec lequel il bringuait effectivement dans sa jeunesse et qu'il a vu un petit peu moins à partir de son départ à nouveau à Londres et à New York. Mondrian a eu conscience de réaliser une sorte de musée privé avec sa collection ?
Plus qu'un musée privé, un musée. Des œuvres pour un musée, et leur correspondance en atteste. Cette exposition, ça a été aussi l'occasion d'ouvrir un dossier nouveau, et donc d'étudier 300 lettres de Mondrian à Slipher. Et il lui dit « Je suis heureux que tu les aies toutes ensemble, et je sais que nous devons les garder pour un musée. » Et Slipher, qui les conserve donc dans sa maison de Blaricum, un village qui est tout à côté de la Reine, Mondrian est catastrophé en se disant « mais ça va craindre les moisissures, tout cela est problématique ». Donc il y a une vraie volonté de conserver et de témoignage pour l'avenir.
Et Slipher a eu ce désir d'installer ses œuvres dans un musée à cause justement de cette crainte de l'incendie, de la ruine, de l'ensemble. Il se rendait compte de l'importance quasiment testamentaire de cet ensemble.
Il s'en rend compte. Alors, ce qui est absolument fou, c'est que finalement, il s'en rend immédiatement compte. C'est-à-dire que quand il rencontre Mondrian, on est en 1915, et finalement, il va acheter extrêmement rapidement beaucoup, beaucoup, beaucoup. En l'espace de 15 ans, cet homme réunit ce qui, aujourd'hui, est la plus grande collection de Mondrian au monde. Donc, il y a quelque chose d'absolument évident. Il y a une volonté rétrospective, une volonté de rendre compte. Et enfin, une volonté de conserver. Pour autant, Slipher ne fera entrer sa collection dans un musée qu'à sa mort en 1971.
Alors, il se passe quelque chose. Je pense que Anne Gratadour, quand vous avez installé ces deux tableaux côte à côte, c'est-à-dire vraiment deux mutations, comment est-ce qu'un jeune artiste qui a exposé pour la première fois ses dessins vers 1888, mais qui sont des dessins quasiment des copies des maîtres hollandais, et qui ensuite fait cette assez belle d'ailleurs, mais très conventionnelle nature morte au lièvre, suspendu par une patte avec un fond très brun, il n'y a pas de surprise, on est vraiment dans l'art traditionnel, si je puis dire. Comment est-ce qu'on fait vivre, quand on est metteur en scène, deux tableaux aussi différents côte à côte ?
Alors ça, c'est la joie du scénographe, c'est de scénariser justement des œuvres. Et là, nous avons installé, accroché ces deux œuvres en angle perpendiculaire.
Donc vous avez mis, il y a un angle droit qui les sépare en fait.
Un angle droit, mais dans cet angle droit, il y a une pièce maîtresse qui est le buste du collectionneur qui rejoint ces deux œuvres. C'est-à-dire que le message est simple d'emblée. On a un texte d'introduction qui raconte cette histoire de cette collection incroyable. Et on arrive avec la première œuvre qui a donc peinte à 19 ans et celle qui annonce la partie la plus phénoménale de cet artiste.
Alors, cet artiste, c'est un artiste, Marianne Mathieu, donc qui est le fils et le petit-fils de peintre et de dessinateur, qui a un oncle qui est peintre également, qui est donc imbibé de ce monde de la culture, qui est peut-être aussi imbibé de pensées piétistes, religieuses en tout cas. Comment ça commence, l'aventure Mondrian ?
Vous avez raison, c'est un artiste qui est animé par cette pensée religieuse et je crois qu'elle l'anime du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. Il est aussi un remarquable peintre dans la tradition. Il vient d'une famille extrêmement rigoureuse, il veut être peintre, il sera donc professeur de dessin. Et ses peintures, sans surprise que vous décriviez Jean, eh bien il en vit. Puisque Mondrian, pour gagner sa vie, joindre les deux bouts, eh bien, fera des copies du Rijksmuseum d'Amsterdam. Donc vous avez finalement ces deux côtés, le côté très inspiré et cette capacité technique et la liberté que ça lui offre. Et dès le départ, dans les œuvres les plus anciennes, les petits paysages qu'il fait en 1906, eh bien, les plus petits panneaux sont des œuvres à destination personnelle. Et il appelle ça « mes paysages ». Intérieur. Et dès 1906, et je pense dès lors qu'il prend son pinceau ou son crayon, aussi jeune soit-il, il veut représenter l'essence de toute chose. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est l'essence ? Ça ressemble à quoi ? Et c'est ça son aventure. C'est ce qui le mènera de la figuration à quelque chose qu'on appelle l'abstraction.
Alors c'est exactement ça l'aventure, en effet. Alors c'est une aventure qui commence pas si bien, parce que après avoir accepté de, par sécurité, esprit de sécurité, de prendre des cours de dessin et d'avoir un diplôme de professeur de dessin pour être donc à l'aise, eh bien il va essayer de rentrer à l'académie, donc l'académie, la Rijksakademie d'Amsterdam, et tenter le prix de Rome. Et là on a déjà des observations des professeurs lorsqu'il va faire tenter en tout cas d'être apprécié, de pouvoir avoir accès à Rome. Et un petit peu comme à chaque fois dans une école des beaux-arts, il n'y a pas toujours une clairvoyance des jurys. Écoutons.
L'étude de nu d'après le modèle ne répond pas au niveau de qualité requis, puisque ni la forme ni la couleur ne correspondent à la nature. Le modèle, un peu petit mais bien bâti et bien proportionné, est représenté ici par un arrangement linéaire maladroit et sans forme. Les jambes sont beaucoup trop lourdes et trahissent une compréhension limitée de l'anatomie humaine, tandis que les couleurs ternes et le modelé inexpressif laissent une impression non moins défavorable. Seule, la partie supérieure du buste souffre moins des défauts mentionnés ci-dessus. L'esquisse d'Elisha avec le fils de la veuve fait preuve de manque de goût et de rigueur. Le traitement exagéré des figures et le décor très artificiel du lit de cérémonie sont déplaisants. Et ces défauts ne sont pas compensés par d'autres qualités d'ordre artistique. De plus, la lumière qui est censée jouer un rôle important dans cette composition est très fausse. La composition de Jacob avec le manteau de Joseph convainc tout aussi peu du talent de son auteur. On a les plus grandes difficultés à reconnaître l'événement censé être dépeint. La scène ressemble à un groupe offrant un présent, d'autant que le vieux Jacob ne semble pas surpris le moins du monde. Au contraire, il semble attendre là, à l'entrée de sa tente, bien préparé pour le Seigneur. En outre, l'organisation des figures en groupe est terne et sans imagination.
Thank you.
France Culture, l'art et la matière. Jean de Loisy.
Et nous évoquons Mondrian. Mondrian qui, en ce moment, est montré au musée Marmottan avec, essentiellement, c'est un rassemblement extraordinaire de peintures figuratives, la fameuse collection de Slipher. Anne Gratadour, vous venez d'entendre la critique extrêmement méchante qu'a fait le jury lorsque Mondrian a essayé de rentrer à l'Académie pour avoir un prix de Rome. Comment se fait-il, selon vous, qu'il y ait si peu de discernement? Est-ce que l'œuvre est tellement informulée que, de toute façon, on ne comprend rien? Est-ce que c'est un coup de chance pour un artiste d'avoir ce refus? Comment est-ce que vous vivez ça, vous-même, qui êtes scénographe de l'exposition, mais aussi artiste?
Je pense que dans l'histoire de Mondrian, ça a sûrement été un moteur pour lui de n'entrer dans aucune section académique et de créer son propre art qui a été une référence après pour tous les artistes. Il était très très en avance par rapport à ses contemporains. Il a abandonné très très tôt les couleurs naturelles pour oser les couleurs pures. Il a construit très tôt des horizontales et je regardais là les deux paysages qui sont en introduction, enfin dans la première partie d'exposition, qui sont le moulin au crépuscule et le paysage, donc 1909.
Vous pouvez nous décrire le moulin au crépuscule?
Alors en fait c'est une construction vraiment avec des aplats horizontaux. Et il y a donc un moulin en contre-jour qui se dresse. Donc déjà, c'est très très moderne. Moi, quand je les vois, je pense parfois à des compositions comme Scully, par exemple, aujourd'hui. Et surtout, il ose pousser la couleur très très loin, qui est déjà cette couleur intérieure, quoi, de recherche de l'intime, voilà. Et
alors c'est assez mystérieux, pour moi c'est assez mystérieux cette partie de l'œuvre de Mondrian, parce que il y a des singularités qui apparaissent déjà très vivement, et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, Marianne Mathieu, c'est que les œuvres sont très souvent dans une obscurité ou une demi-obscurité, très souvent une brume vient cacher le sujet, très souvent la découpe est frontale et un rideau s'interpose entre soi et le sujet. On n'est pas dans une vision classique à la Ruisdael, par exemple, comme qui inspirait tellement les artistes jusqu'à la fin du 19e siècle, même jusqu'au début du 20e siècle en Hollande. On est avec le coup de soleil au cœur de l'image. On a l'impression que on a toujours le spectacle d'un voile entre soi et le sujet.
Vous avez tout à fait raison. En fait, il n'est pas dans le pittoresque. Mondrian n'est jamais dans le pittoresque. Alors, dès les départs, cette peinture qui va être cette peinture un peu crépusculaire, cette peinture qu'il qualifiera lui-même de peinture grise, l'attache à une tradition qui est la tradition de l'école de La Haye. Mais dans les œuvres les plus personnelles, effectivement, il crée ce voile qui, sans doute pour Mondrian, suggère que le sens est ailleurs. Ce qui est extraordinaire, ce que je trouve absolument fondamental, enfin émerveillant dans l'exposition et dans le parcours de Mondrian, c'est que ces paysages de jeunesse, Mondrian embrasse la nature. Ce sont des vues qui sont des vues panoramiques. Il a toujours cette notion du paysage intérieur de l'essence. Et très rapidement, il s'aperçoit que s'il veut représenter la nature telle qu'elle est, il ne peut pas l'embrasser dans son immensité, mais il doit en représenter un détail. C'est comme Monet qui peint une fleur pour représenter l'immensité du monde. Et bien là, il va travailler sur un motif, le moulin, qui deviendra une horizontale et une verticale. Donc il y a ce rapport, il y a cette recherche. Mondrian déshabille la peinture, déshabille son motif.
Alors c'est très joli la façon dont vous le prononcez, il déshabille son motif, mais alors il y a plein de façons, parce que on voit dans les tableaux que d'abord les touches sont très visibles, on a l'impression, et ça n'est pas le cas, on a l'impression que ce sont des pochades, c'est-à-dire que la peinture est mise au premier plan devant le sujet. L'autre chose, c'est que ces peintures, qui sont souvent des séries, et là il y a une sérialité à la Monet un petit peu, hein, sont précédées parfois de dessins incroyablement précis, d'une minutie inouïe, et qui quasiment donne l'impression d'être inutile à la peinture. C'est-à-dire que la peinture est un stade d'après, où c'est des éléments fondamentaux qui donnent la sensation d'être mis en évidence.
C'est ça, c'est la recherche du fondamental et comment le faire éclore. Et Mondrian ne cesse de chercher à aller au-delà de l'apparence. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité d'inventivité, d'évolution rapide. en l'espace d'un an, c'est quelqu'un qui va abandonner la peinture grise et qui va opter pour une palette éclatante de jaune vif, de rouge primaire, extraordinaire.
Alors avant de rentrer dans cette aventure, il y a des lectures, on sait que Mondrian est très marqué par les lectures spirituelles, que ce soit l'Isis dévoilée de Blavatsky, que ce soit les grands initiés de Chouret. Et quand vous disiez tout à l'heure, Marianne Mathieu, qu'il y avait un caractère très religieux dans sa peinture, c'est évidemment au sens où la peinture transcende toute religion, c'est au sens où l'artiste devient un initié. Et j'aurais plaisir à vous faire écouter ce qu'il lisait à cette époque-là, et un extrait donc des grands initiés de Chouret, quand Chouret explique ce que c'est qu'un initié. Et évidemment, c'était marquant pour l'artiste initié lui-même.
Les initiés apprenaient que la divine Perséphone, qu'ils avaient vue au milieu des terreurs et des supplices des enfers, était l'image de l'âme humaine enchaînée à la matière de cette vie, ou livrée dans l'autre à des chimères et à des tourments plus grands encore, si elle a vécu esclave de ses passions. Sa vie terrestre est une expiation ou une épreuve d'existence précédente. Mais l'âme peut se purifier par la discipline. Elle peut se souvenir et pressentir par l'effort combiné de l'intuition, de la raison et de la volonté, et participer d'avance aux vastes vérités dont elle doit prendre possession pleine et entière dans l'immense au-delà. Alors seulement Perséphone redeviendra la pure, la lumineuse, la vierge ineffable, dispensatrice de l'amour et de la joie. Quant à sa mère Cérès, elle était dans les mystères le symbole de l'intelligence divine et du principe intellectuel de l'homme, que l'âme doit rejoindre pour atteindre sa perfection.
Et nous évoquons Mondrian, le grand initié, au fond, à ce moment où il se passionne pour, comme beaucoup d'artistes de cette époque-là, effectivement, pour la théosophie et une vision spirituelle de la création. Anne Gratadour, vous avez installé trois peut-être même très grands dessins autoportraits sur un fond rouge dans l'exposition. Il est évident qu'ils ont une majesté particulière. Marianne Mathieu, est-ce que vous pensez que cette présence, ce regard fascinant comme ça de Mondrian, il a une façon de se présenter qui donne l'impression de quoi, à votre avis?
C'est l'image d'un sage, peut-être même d'un gourou. Il a un côté, c'est un Mondrian qu'on ne connaît pas. C'est un physique tout à fait inattendu. Il est barbu, il se représente avec un collier, il a ce regard d'une présence très symboliste, presque expressionniste. C'est véritablement un homme qui ressemble à sa peinture et une peinture qui se veut flamboyante. Et d'ailleurs, on a une citation de la fille d'un peintre très important néerlandais qui s'appelle Torop, qui est elle-même peintre. Et Shirley Torop dit qu'elle se souvient de ce fou de Mondrian qui était sur la plage, et on a vraiment l'impression d'un beatnik. Et donc il y a effectivement cette présence spirituelle, théosophique pour lui, qui à ce moment-là est absolument clé, il se représente tel quel.
Et le grand peintre hollandais, vous parliez de sa fille à l'instant, Torop, lui aussi travaille exactement sur les mêmes sujets, avec cette peinture qui a un sens, ou en tout cas dont l'intention est de dévoiler le sens profond des choses que vous évoquiez tout à l'heure. Anne Gratadour, vous parliez tout à l'heure de ce moulin. On voit dans ce moulin apparaître quelque chose qui sera constant, le lien entre le ciel et la terre, vous en parliez. Vous avez l'impression que c'est une peinture de paysage ou que c'est une peinture philosophique déjà, ou les deux?
Les deux, il relie les deux à ce moment-là. Et il en prend conscience à ce moment-là. Et dans la présentation, en fait, les deux œuvres se font face et sont présentées comme une parenthèse.
C'est-à-dire le moulin et...
Le moulin et le paysage se font face, donc avec cette construction horizontale, comme je l'évoquais précédemment, avec des couleurs poussées, assez presque déjà saturées, et donc elles sont présentées face à face, comme une parenthèse colorée, avec un fond coloré différent des espaces qui l'encadrent.
Donc en 1920, Anne Mondrian va publier un certain nombre de scénettes, en fait, une sorte de pièce de théâtre en épisode, qui va être rassemblée et rééditée d'ailleurs par le Centre Pompidou en français assez récemment. Et dans ces scénettes, il évoque des sujets naturalistes, et je pense en particulier à sa description d'une façade d'une église, qui c'est une période où il peint beaucoup d'églises, et elle apparaît comme une surface plate, légèrement éclairée par les lueurs de la ville contre l'obscurité du ciel, dit-il. Et dans ce petit dialogue, je serais curieux de vous entendre y réagir ensuite. Écoutons-le.
Voici de nouveau une autre réalité, mais non encore abstraite. Pourtant, tout y est plat et géométrique. L'abstrait est une intériorité portée à sa plus claire définition. Ou encore, c'est l'extériorité la plus profondément intériorisée. Ainsi, il n'y a pas de place dans l'abstrait pour l'indéterminé que ce mur montre par endroits, ni non plus pour certaines formes que nous voyons apparaître ici de façon répétée. Mais cette église a bel et bien été bâtie en style. L'architecte n'aurait-il donc pas trouvé les justes proportions? On n'a pas cherché en premier lieu le rapport pur des équivalences, mais seulement l'harmonie. En architecture, l'extérieur s'exprime selon la construction interne. Lorsque celle-ci n'est pas d'un équilibre pur, l'extérieur ne peut l'être davantage. C'est pourquoi il est nécessaire que la construction architectonique change du tout au tout. L'architecture doit, elle aussi, être une plastique pure. Ainsi, l'architecture ancienne, quelle qu'elle soit, ne peut vous faire penser à la plastique abstraite ? Aussi longtemps qu'il n'existe pas une architecture absolument nouvelle. C'est la peinture qui doit réaliser ce en quoi l'architecture, comme elle apparaît généralement, est en retard, c'est-à-dire la création d'un équilibre de pure relation.
Vous venez d'écouter ce petit dialogue qui a été écrit en 1920 et donc qui a été écrit dans une période structurée, si je puis dire, en tout cas de sa peinture. Mais sa peinture était structurée depuis toujours. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, Anne Gratadour. Il parle au fond un petit peu de votre métier d'architecte, scénographe, puisqu'il dit que quand la structure est juste, l'image peut le devenir à son tour.
Hein.
Donc,
vrai.
Il cherche une sorte de cohérence interne aux choses dans le visible.
Oui, et je fais un parallèle avec mon métier de scénographe. Car nous savons que quand un plan fonctionne dans un espace d'un musée, ça va fonctionner en volume dans la réalité. On sait qu'on va pouvoir circuler d'une manière fluide. Et voilà. Et là, je crois qu'il évoque cette question de l'équilibre entre la construction imaginaire qu'on peut donner à un lieu et le rapport avec ce qu'on a au plus profond de soi, puisque vraiment l'accès au spirituel, comme on en parlait précédemment, ça passe par l'expression visuelle, et il doit passer par ça.
Mais la structure même du visible dans lequel il va trouver un message supplémentaire, c'est assez curieux, les deux grands tableaux, l'église et le phare, qui sont avec exactement le même point de vue, c'est-à-dire, comment est-ce que vous décririez ce point de vue, cette sorte de... On a l'impression qu'il met son chevalet très très bas par rapport à l'architecture.
Il est cadré... serré, c'est-à-dire que il transforme cette façade, qui est une façade qui ressemble à une tour, et ce phare, qui est en lui-même une tour, en des verticales. Il y a vraiment ce rapprochement au plus près du sujet pour aller essayer d'en tirer les ressources absolues. Alors, dans un tableau, ça va être un intérêt sur la ligne, dans un autre qui représentera le même sujet, un autre phare. Nous en avons trois exceptionnels.
Trois phares et
le clocher en Zélande, qui est une toile absolument merveilleuse. Il faut imaginer une façade en aplat de rose avec un fond éclatant de vert et des parcelles de bleu. On pourrait revenir sur cette peinture, elle est extraordinaire. Et donc, à côté, il va chercher la vibration de la couleur. Donc, il y a vraiment une interrogation d'un Mondrian qui veut aller au plus collé serré à son sujet pour en tirer le meilleur, en tout cas la substance.
Alors, ce qui est très étrange dans la peinture, je pense en particulier à l'église en Zélande, sachant que le phare est une sorte de contrepoids assez intéressant, parce que évidemment un phare et une église, c'est un peu la même chose, je pense, dans l'esprit de Mondrian. Alors, quand on regarde cette église, vous décriviez les couleurs, il faut se rendre compte qu'elles sont d'une insistance folle, hein, c'est-à-dire que l'église tout à fait serrée que vous décriviez tout à l'heure, elle évoque peut-être d'autres églises qui sont bien connues. Je pense à Van Gogh, en particulier à l'église à Auvers-sur-Oise, parce qu'il y a un effet de lumière à l'intérieur des vitraux, il y a une liberté par rapport à la couleur, il y a une indépendance. Il ne cherche pas du tout la même chose. On n'est pas dans une question de recherche de soi et de l'expression de soi. Au contraire, le soi est éloigné, mais on est dans une liberté semblable par rapport à la couleur, non, pensez-vous?
La couleur est une ressource clé pour Mondrian. Et l'exposition révèle, à travers cette peinture, avec une palette tout à fait inattendue, des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des rouges, un artiste qui va véritablement s'intéresser à la portée spirituelle de la couleur. Et c'est ce qu'on voit dans cette œuvre. C'est vraiment cet intérêt qu'il a. Alors, il y en a un deuxième, et on voit bien dans l'exposition. Ce tableau, ce grand clocher, il faut imaginer que c'est une œuvre monumentale, hein. C'est une rencontre physique qu'on fait avec ce tableau.
Quelle hauteur à peu près ?
Elle fait 114 de haut, donc ça fait 120. Elle est présentée dans un cadre sur une simèse seule. C'est vraiment une expérience physique très très impressionnante. Elle est présentée en face à face avec des œuvres qui lui sont immédiatement contemporaines. Mondrian part à Paris et découvre là les cubistes. Et du jour au lendemain, il va adopter la touche et la palette de ces cubistes, c'est-à-dire abandonner très rapidement la couleur. Et donc il y a une rapidité d'évolution, une diversité aussi chez Mondrian qui est très frappante.
Et donc il y a une autre figure qui apparaît et qui est extrêmement proche, qui revient tout le temps. Vous en parliez tout à l'heure, Anne Gratadour, c'est le moulin. Et le moulin, lui aussi, on a l'impression qu'il a tout le potentiel de ce que sera son œuvre plus tard.
J'espère et je crois que l'exposition le rend visible. C'est-à-dire que le visiteur aura toujours dans son axe un moulin. Un moulin qui est perçu sur une clairière, dans une vision panoramique, perdu comme un détail. Ensuite, un moulin dont Mondrian va se rapprocher, qu'il va éclairer. Ensuite, ce moulin spectaculaire dont vous parliez, alors il s'appelle moulin, mais il est sur un fond bleu, il est rouge, il est géométrique. Et on comprend, à travers cette recherche de Mondrian, qu'effectivement, lorsqu'il ne reste plus qu'une ligne, qu'une horizontale ou qu'une verticale, on retrouve la structure de ce moulin dont il va tirer, eh bien, l'essence même. Pour Mondrian, il le dit à Slipher, la manière change, mais l'objet est le même. Et donc, le figuratif et l'abstrait portent le même message. Et c'est la raison pour laquelle Mondrian ne renie pas son œuvre figurative, mais la revendique. Et en 1918, quand il peint son portrait de grand maître, eh bien, il se représente devant un tableau purement abstrait, un damier, mais dans la plus pure tradition naturaliste.
Alors ça, c'est une œuvre que lui avait demandé Slipher à plusieurs reprises. J'aimerais bien avoir un portrait de toi. Et effectivement, il fait un portrait qui est la suite de la... On pense à l'autoportrait de Poussin.
Ah ben oui, complètement. Hein, là, on est vraiment dans la tradition absolue de l'artiste qui se représente comme Primus inter pares, appartenant à ce cénacle très restreint que sont les artistes. Il se fait rentrer dans l'histoire de l'art par ce biais-là. Donc il y a une volonté, d'ailleurs il le dit, mon travail est à un stade de développement où je dois faire mon portrait. Alors qu'il n'a jamais cessé d'ailleurs de se représenter. Donc là, c'est véritablement l'autoportrait de Mondrian en peintre.
C'est un autoportrait qui est au crayon, ou pas?
Non, celui-ci est peint.
Alors, racontez, vous pouvez nous le décrire exactement, parce que vous avez dit qu'il y avait au fond donc, oui. cette structure orthogonale.
Alors, Mondrian, en 1919, peint ses premières peintures abstraites. Alors, qu'est-ce que c'est que des peintures abstraites? Ce sont des peintures donc, qui ne s'inspirent en rien de la nature, et ce sont des damiers. Et donc, il fait des damiers qui sont extrêmement serrés, comme des cahiers d'écoliers, avec des couleurs plus ou moins foncées. Ce qui va être un scandale, ce qui va faire perdre à Mondrian toute sa clientèle, y compris sa clientèle la plus éclairée. Et Slipher, pour l'aider, va l'acquérir. Et donc, ce tableau, ce damier, c'est l'arrière-plan de son autoportrait où il se représente en buste, avec une très très élégante veste, que d'ailleurs il a échangée à Salomon Slipers, extrêmement bien coiffée, et nous défiant du regard et s'assurant de sa prestance physique. C'est donc le peintre qui pose devant son œuvre et qui la revendique.
Alors vous avez travaillé ensemble, Marianne Mathieu et vous, Anne Gratadour. Tout à l'heure, Marianne décrivait la façon dont les moulins étaient quasiment présents dans chaque axe de vision. Comment est-ce que c'est un dialogue que vous avez fait spontanément? Vous étiez tout de suite d'accord ou au contraire c'était compliqué? Ou est-ce que c'est la lecture de l'artiste qui l'impose? Comment est-ce que vous avez vécu cela?
Alors, la manière de procéder est à peu près toujours la même. Hein. Quand on fait un projet de scénographie, on a un premier scénario qui est donné par le commissaire d'exposition avec un enchaînement d'œuvres à accrocher. Et donc, mon travail consiste à éclairer, enfin mettre en lumière et traduire visuellement ce parti pris. Voilà, les rythmes. Et Marianne m'avait très vite précisé les tableaux d'axes. Voilà, parce que c'est aussi une chose importante de donner des perspectives dans un parcours pour ne pas découvrir toujours l'œuvre, par exemple, qui est celle de la communication visuelle. Donc là, c'est l'œuvre qui s'appelle « Dévotion ». Qui est donc la petite fille qui regarde vers le ciel.
Et, avec deux petites fleurs de chaque
ouais,
côté.
Ouais. Voilà. Et donc, c'est toujours... En fait, je crois aussi que le travail que nous avons fait était du même ordre, sans aucune prétention, que cette quête de l'artiste. C'est-à-dire, comment peut-on amener le visiteur à approcher une œuvre qui demande déjà beaucoup de réflexion intérieure.
Est-ce que vous pensez que le visiteur, donc qui va être confronté à ces axes, va se dire je comprends. Est-ce que ce moulin n'est pas aussi une roue cosmique? Est-ce que ce travail sur la signification est rendu plus facile par la scénographie, justement?
Oui, alors je crois que oui, pour une raison simple. C'est qu'une exposition, d'abord, ça offre un nouveau regard sur les œuvres, et c'est tout l'intérêt des expositions temporaires. Et d'autre part, visiter une exposition, c'est un rapport physique à l'œuvre. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme il y en a plein dans la vie, et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on entre dans un espace d'exposition, on est appelé vers une œuvre, on ne sait pas pourquoi, on embrasse l'œuvre ou pas, mais chacun va faire son expérience personnelle.
Alors il y a une notion que Mondrian évoque à de nombreuses reprises, c'est la question de l'équilibre, l'équilibre entre le jour et la nuit, entre le tragique et le paisible, etc. Est-ce que dans une exposition, quand on a un artiste qui est tellement obsédé par cette relation des poids et des espaces, est-ce que ça a une influence sur la construction de l'exposition?
Oui, alors moi je trouve que sont des bonnes énergies. Je dis toujours, mes meilleurs compagnons de route sont les œuvres qui seront présentées, parce qu'elles Encore une fois, c'est un fil invisible qui relie notre travail à ses œuvres. Et voilà, nous sommes là pour les rendre vivantes encore aujourd'hui, même si l'artiste n'est plus de ce monde. Et donc là, dans le cas de Mondrian, c'était extrêmement simple pour ça.
Vous voyez ce que ça veut dire dans l'esprit de Mondrian, Marianne Mathieu, cette question du tragique qui l'inquiète tellement?
Le tragique, je ne sais pas. La fin, F-I-N, oui, il y a quelque chose, effectivement, de Mondrian qui, dans la quête même de son œuvre, qui cherche à représenter quelque chose d'essentiel, quelque chose d'un équilibre qui doit être en permanence réinventé. Il y a quelque chose d'impossible. Et là, il y a quelque chose effectivement de vertigineux, de saisissant. Et c'est ce que finalement on découvre dans sa peinture, c'est que cet équilibre impossible qui l'amène à faire ses compositions néoplastiques, qui nous semblent être des compositions géométriques, elles sont tout sauf géométriques. Il n'y a pas d'angle droit. Il n'y a pas de ligne qui arrive au bout. La couleur est vibrante. Et c'est ce déséquilibre qui crée l'équilibre. Et donc, c'est une quête effectivement permanente et qui doit être réinventée constamment. Donc là, je peux penser à quelque chose de tragique chez Mondrian. Et puis, quelqu'un qui a une ambition, une quête d'un absolu tel qu'effectivement, c'est vertigineux.
J'avais l'impression... que le tragique était aussi chez lui tout ce qui était de l'ordre de l'accident, c'est-à-dire ce qui risquait de ne pas être l'essence des choses. Écoutons ce qu'il en dit.
L'oppression de ce tragique, un sentiment de souffrance sans fin, nous le subissions à l'aube. Émotion éprouvée par tout artiste et en peinture exprimée par le peintre paysagiste. À l'aube, la nuit domine encore. La lumière faible essaye de la vaincre. On sent l'oppression du déséquilibre nuit-jour, clair-obscur. C'est l'aspiration vers l'équilibre. L'espoir-désespoir, l'absence de certitude. C'est l'attente du plein jour, unité par équivalence de clarté et d'ombre. La nuit, le passé, plein jour, l'avenir, l'homme et la nature unifiés. Le présent, l'aube, la fin de la nuit, l'aube, l'évolution.
Sur France Culture et nous vous écoutez L'Art et la Matière avec Mondrian, bien entendu, dont nous parlons, avec vous, Marianne Mathieu, et vous qui êtes la scénographe de l'exposition. On vient d'entendre cela. Alors évidemment, on se dit tout ce qui est anecdotique va disparaître et pourtant dans l'exposition, il y a des fleurs. On est très surpris de se dire qu'il y a des fleurs. Que viennent faire les fleurs dans la vie de Mondrian? Est-ce que c'est Lénine qui disait on peut être révolutionnaire et aimer les fleurs?
Mais les fleurs ne cessent d'animer la vie de Mondrian du premier au dernier jour. Alors, quand il est jeune, il vend des fleurs en porte-à-porte. Lorsqu'il est néoplasticiste et qu'il est encore en Europe, Salomon Slipers va écouler des peintures de fleurs qu'il fera pour joindre les deux bouts. Et puis, lorsqu'il n'aura plus le temps de s'adonner à une peinture naturaliste, eh bien, tous les matins, Mondrian, avant de s'atteler à une autre tâche, commence par peindre une rose.
étrange, parce que il y a un moment aussi où il faut qu'il fasse autre chose, il sent qu'il est dans l'urgence de développer son système, et pourtant c'est vrai qu'il revient à ses fleurs qui sont aussi un intérêt commercial. Écoutons ce qu'il en dit d'ailleurs à son ami et marchand Oud.
C'est dans la nature de mon travail d'être aussi difficile à vendre, en dépit de ma réputation grandissante, etc. J'ai parfois peur de devoir recommencer à peindre ces fleurs pour survivre. J'ai la possibilité de vendre une aquarelle de fleurs en Hollande, mais j'ai encore manqué de sens pratique. Au lieu de m'y mettre, après avoir terminé mes toiles, je me suis occupée de mon atelier. Il est très bien maintenant. Et j'aimerais beaucoup que tu le vois.
Alors voici les fleurs que vous avez donc parsemées sur dans l'exposition. Comment avez-vous fait ? Vous les avez réparties, rassemblées éparpillées, comment avez-vous fait ?
Elles jalonnent le parcours tout au long de l'exposition. Donc dans chaque section, on les retrouve.
Le parcours est chronologique. Donc on démarre en 1906, on termine en 1921. Et en 1921, l'Axe nous présente deux œuvres. L'une centrale, une composition néoplasticiste. Et à sa droite, sur un fond jaune éclatant, une rose. Et donc, l'exposition se termine au moment où les chemins de Slipper et de Mondrian se séparent, mais montre bien que datant de la même période, le figuratif et l'abstrait coexistent.
Et effectivement, c'est la dernière œuvre, c'est aussi la dernière œuvre du catalogue. Et alors, il y a quelque chose qui est très extraordinaire aussi dans la vie de Mondrian. Alors, cette fois-ci, on dépasse l'exposition, mais au fond, l'exposition l'exprime, puisqu'on vient d'entendre Mondrian évoquer la chose, c'est son atelier. Alors, son atelier, c'est la vie parisienne d'abord, bien entendu. Il faut se rappeler, effectivement, qu'il est arrivé à Paris. Vous avez sous les yeux une peinture cubiste, et que ça va l'impressionner beaucoup, et qu'il va y revenir après la guerre. Et que là, ça va beaucoup le décevoir, non ?
Oui, le retour à Paris en 1919. Alors, déjà, rendons à César ce qui est à César. Si Mondrian peut retourner à Paris en juin 1919, c'est parce que Salomon Slipper lui dit « Écoute, ton fonds d'atelier qui reste à Paris, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'achète tout. » Et donc, c'est ce qui va permettre de changer la vie de Mondrian et finalement d'avoir la carrière internationale qu'il aura et qu'il souhaite avoir. Et donc, mais il retourne à Paris, c'est le retour à l'ordre. Et
ça veut dire pour nos amis auditeurs que les artistes ont arrêté d'être des artistes radicaux. Ils se sont rassemblés autour des grandes figures traditionnelles, le nu, le visage, les objets, etc. Et tous les aventuriers qu'il avait admirés sont revenus à l'ordre.
Sont revenus à l'ordre. Et là, c'est une véritable déception pour Mondrian. Toutefois, qui est un artiste qui ne va pas faiblir, hein, et qui est persuadé que la voie qu'il s'est tracée est une voie de vérité. Et là, on arrive à la dimension spirituelle, quasi religieuse de l'œuvre et de l'aspiration de Mondrian.
Alors on peut dire qu'il est le seul à tenir, au fond.
Il tient et coûte que de coûte. Et c'est d'ailleurs ce qui est très très... Il est à la fois le plus radical, le plus jusqu'au boutiste, et il est aussi celui qui va, tout au long de sa vie, avoir une peinture qui est une peinture alimentaire. Ce qui ne sera jamais quelque chose de problématique pour lui. Et donc c'est cette manière de créer un équilibre qui va lui permettre d'être plus radical, plus entier que ses contemporains.
Et l'amitié avec Slipper se rompt à ce moment-là, Slipper, ou au contraire, ça... qu'est-ce qui se passe entre eux ?
L'éloignement joue beaucoup. Et en 1921, au moment où notre exposition se termine avec cette toile néoplasticiste, Slipper est encore un soutien extrêmement régulier de Mondrian. Et d'ailleurs, il sera son grand représentant aux Pays-Bas. et il lui écrit. Et il lui dit, j'aimerais beaucoup que tu me fasses une peinture dans ta manière classique. Et Mondrian lui dit, je n'ai pas le temps en ce moment, je ne le ferai pas. Et là, Slipher est désolé et cesse d'acquérir directement auprès de Mondrian. Il achètera sur le marché de nombreuses œuvres. Et de loin en loin, leurs chemins se séparent. La guerre, la Seconde Guerre mondiale, aura bien évidemment une conséquence sur la vie de Mondrian puisqu'il part aux États-Unis. Slipher, lui, reste aux Pays-Bas, il est juif. Il va se cacher dans sa villa de Blaricum ou dans la cave avec les œuvres de Mondrian qui sont considérées comme des œuvres d'art dégénéré. Eh bien, il va survivre à l'Holocauste.
Il restera, je pense, quelque chose de très frappant. C'est, et que l'exposition montre, me semble-t-il. Anne, c'est sans doute grâce à votre intervention, mais en tout cas, on sent, ou grâce à la sienne, tout simplement, on sent tout au long, c'est impossible, au fond, ce que je voudrais dire, c'est que c'est impossible de regarder le Mondrian, très merveilleux et très puissant, de figuratif que vous avez installé dans cette exposition, sans être sans cesse habité par le Mondrian néoplasticien. Et on sent une cohérence entre ces différences du début et cet aboutissement de la fin, comme la différence entre l'évolution d'un chemin que l'on parcourrait et qui est dans une logique absolue. C'est rectiligne, non ? Ne trouvez-vous pas ? Finalement,
oui,
le chemin.
Mais c'est une belle métaphore, voilà.
C'est une métaphore.
Ouais.
C'est peut-être métaphore, ça vient de l'idée de se déplacer dans un. C'est un moyen de déplacement, comme on dit.
Ouais.
Et au fond, c'est ça, un scénographe, c'est un moyen de déplacement.
C'est un moyen de déplacement, c'est un voyage, et c'est vraiment une dans une notion d'échange des regards que la scénographie prend sens.
Merci beaucoup Anne Gratadour, merci beaucoup Marianne Mathieu.
Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Marianne Mathieu, la commissaire de l'exposition Mondrian figuratif au musée Marmottan, et Anne Gatadour qui est la scénographe de cette exposition. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes Lara Brulle, prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. La semaine prochaine, je recevrai Olivier Gabet, le directeur du MAD, du Musée des Arts Décoratifs, pour l'exposition incroyable qui est faite autour d'un personnage stupéfiant, le fameux Maharaja d'Indore. Et vous découvrirez avec moi le palais Manik Bagh, sans doute un des grands chefs-d'œuvre des années 30. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de L'Épinay et son émission Le Rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.